بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاغ السؤال toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour consacrer un peu de temps à l'étude de cette étape importante qui est la mort. Et ikhwani akhawati fillah, je vais faire un parallèle avec une situation que nous vivons en ce moment. Ça peut être un petit peu, ça peut paraître désordonné comme exemple, mais nous sommes en pleine période de solde, d'accord? En pleine période de solde, les magasins bradent les marchandises, moins 20, moins 30%. Et il y a une enseigne aujourd'hui qui répète donc cette approche commerciale, acheter maintenant et payer dans 3 mois. Acheter maintenant et payer dans 3 mois. Ce qui veut dire que la personne qui n'a pas les moyens va pouvoir s'offrir cette télé gigantesque, un QNV, ce canapé, ce relax ou, et ainsi de suite. Ce n'est qu'un exemple, mais ça nous permet de comprendre quelque chose. C'est que la société nous pousse à nous attacher au bien de ce monde. Hubb al-dunya, et jouir autant que possible des biens de ce monde, même si on n'a pas les moyens de se procurer tel ou tel plaisir, à la recherche du confort, même si c'est au dépens même de notre survie d'une certaine façon. Et lorsque nous voyons ce mode de consommation, nous comprenons clairement que la notion de mort, al-maut, est totalement occultée de notre société. Et nous réalisons, et je pense que ce n'était pas ce qui nous manquait pour le comprendre, c'est notre foi qui nous permet de réaliser que, quel que soit le système qui est mis en place par l'homme, un système qui peut être très bien d'organisation de la société, à partir du moment où l'homme, le mu'min, n'a pas de connexion avec les textes, avec le Coran et la Sunna, cette personne ne peut pas. Il est impossible qu'il avance dans le droit chemin et qu'il meure dans le droit chemin. Parce que même si dans sa vie, il y a un certain héritage culturel ou alors des pratiques qui ont été apprises au makatib, au madaris, comment prier, comment lire le Coran, mais ces pratiques parfois ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes parce que la connexion avec les versets et avec les ahadith, les textes prophétiques, permet aux croyants d'avoir une vision. Et la vision, c'est comprendre le sens profond de « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » qu'Allah m'a créé pour son adoration et que chaque minute, chaque instant, chaque seconde, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal et que, subhanallah, j'ai un rendez-vous, un mawa'id ma'Allah. J'ai un rendez-vous avec Allah et lorsque je rejoins mon Seigneur, mes actions me seront présentées. Je serai jugé pour ces actions, pour chaque parole prononcée, pour chaque décision, pour chaque pensée qu'il y a eu parfois de mon cœur qui s'est concrétisée par une action bonne ou mauvaise. Je serai donc jugé. Ça me permet de comprendre pourquoi j'ai fait la salat de Isha à la masjid. Pourquoi est-ce que après la salat de Isha, j'ai tenu à lire Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar, même si on avait peut-être un rendez-vous en ligne pour un programme. Mais on est conscient que tout ça, ça a un sens énorme, extrêmement profond et qu'en mettant en pratique ces actions, Subhanallah, on obtient le succès, on obtient le pardon, l'expiation de nos fautes. C'est-à-dire qu'on avance le salat al-mustaqim. Cela est impossible, hein, cette prise de conscience, tant que le croyant ne forge pas un lien avec les versets du Coran et avec les hadiths. Ikhwani akhawati fillah, je le répète avec conviction, une pratique dénuée de connexion avec les textes, c'est une pratique qui reste en surface. Et c'est une pratique qui parfois va s'altérer dans des moments d'adversité. Ce sont des pratiques qui ne seront pas remplies d'amour et de crainte de Dieu. Ce sont des pratiques qui ne se distingueront pas par une implication du cœur, par un khushu', par la dévotion, par la concentration. Et c'est une pratique qui parfois ne trouve pas la réelle istiqama, la fermeté. La base, ikhwani akhawati fillah, c'est que le croyant ait une relation avec Kalamullah et Kalamun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire tout simplement apprendre sa religion au quotidien. C'est pas apprendre à pratiquer, mais apprendre sa religion au quotidien. Que ce soit par des séminaires, que ce soit par des durous en live ou en un audio qu'on écoute, une vidéo qu'on regarde sur les réseaux sociaux ou un livre qu'on achète et qu'on lit chaque jour une partie de Tafsir al-Sa'di ou autre. Tout ça, ça nous permet de réactualiser notre foi, de se ressourcer spirituellement et de bien comprendre les événements de la vie et de faire le lien entre ce dunya et le akhira. Celui qui a une pratique dénuée de connexion avec les textes n'arrive pas à faire le lien entre les pratiques et leur aboutissement et leur dénouement dans le-delà. C'est le lien qui nous manque et c'est la présence de Al-Iman bil-Yawm al-Akhir. On est presque gêné parfois de dire à une personne que tu ne crois pas en le-delà. On n'a pas le droit de dire parce que ça impliquerait que la personne n'ait pas la foi. Mais très souvent, la paresse, l'absence de motivation pour l'accomplissement de bonnes actions, ou alors la faiblesse de foi face à l'exposition au péché, ou alors le manque de patience, d'endurance dans les moments d'adversité, traduisent une absence, ou alors une faiblesse, ou une présence trop infime de Iman bil-Yawm al-Akhir. Et ce sont les textes qui nous permettent de construire ces branches de la foi et de comprendre la relation entre ce dunya et le akhira. Le hadith que nous voyons ce soir de la continuité de ce qu'on avait vu donc la dernière fois on avait parlé de Husnul Khatima, qu'Allah nous l'accorde, les signes d'une mort correcte, d'une bonne mort tout simplement, un retour vers Allah où notre Seigneur satisfait de nous. C'est une personne, un croyant, une croyante qui jusqu'à les derniers instants de sa vie reste dans At-Ta'a, et on a vu At-Ta'a c'est-à-dire de l'obéissance, et on avait vu certains textes qui rappellent que quand Allah aime une personne, Allah guide ses pas dans les derniers instants de sa vie pour que la personne ait une pratique correcte jusqu'à mourir. Et quand une personne a une pratique correcte là, bah assurément elle développe husnul dhann billah, une pensée, une bonne pensée, une bonne opinion en Allah. Et quitter ce dunya avec l'espoir en Allah, ça fait partie des alamat, des signes du husnul khatima qu'Allah nous l'accorde. Vous savez, ikhwan et khawati fillah, dans n'importe quelle situation de la vie, à partir du moment où on est, entre guillemets, clean spirituellement, qu'on est dans une bonne spirale de bonnes œuvres et de maîtrise de soi face au péché, ben même si on est dans des épreuves, dans des difficultés, même si chaque jour, subhanallah, se présente à nous avec son lot de ibtila, de difficultés, le mu'min, à partir du moment où il est conscient qu'il obéit à Allah, sabahan wa masa, matin et soir, et qu'il n'accomplit pas de péché volontairement, il sait que tout ce qui l'arrive, subhanallah, tout ce qui se passe dans sa vie, ben ce sont là des futuhat, ce sont là des ouvertures qu'Allah, Rabbul Izzah, est en train de lui accorder. Allah est en train de l'ouvrir des portes, des hauts portes, des hauts grades du Jannah par le biais de ses difficultés. Alors que la personne qui est dans le ma'asiyah, dans le péché, une personne qui est devenue fasiq, nasallallahu alayhi wa sallam, qui développe des péchés et qui s'est enfoncée dans certains péchés, certaines mauvaises habitudes qu'il a du mal à délaisser, il peut craindre que, en fait, tout ce qui est en train d'arriver, c'est peut-être l'expiation de faute, mais c'est d'une certaine façon une manifestation qu'Allah est mécontent de lui. Et que la personne aura le cœur, on va dire, de le doute, parce que à partir du moment où on sait qu'on n'est pas clean, on n'est pas bien spirituellement, ben ce qui nous arrive ne nous rassure pas. Alors que quand je suis dans le droit chemin et que je suis persuadé que je suis au maximum de mes efforts, quoi qu'il nous arrive, on a le cœur apaisé parce que nous savons que nous sommes dans l'obéissance envers notre Seigneur, qu'Allah nous accorde cette istiqama, cette pratique correcte, permanente, constante, pour que nous puissions apprécier chaque jour de notre vie, quelle que soit la situation que nous vivons, bonne comme mauvaise, nous pouvons nous en remettre à Allah Azza wa Jal. On avait donc vu, justement, la personne qui meurt dans le droit chemin, c'est le plus beau cadeau qu'Allah puisse accorder à quelqu'un. Dans certains textes, il est également mentionné qu'un des plus grands bienfaits, c'est qu'une personne voit ses cheveux et sa barbe blanchir de l'obéissance aux ordres d'Allah. Sur les réseaux sociaux, j'avais vu une photo, enfin deux photos superposées, et ça m'avait beaucoup touché, d'un grand savant, spécialiste en dialogue interreligieux, le docteur Zakir Naik, que vous connaissez certainement. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est un, mashallah, c'est quelqu'un que Allah a guidé son cœur dans la lignée de Cheikh Ahmad Didat, rahimahullah. Et il y avait une photo de Dr Zakir quand il était jeune, il avait la barbe noire, machin, il était jeune, la trentaine, et une photo où il avait la barbe toute blanche, subhanallah. Et les deux photos étaient juxtaposées. En regardant là, je me suis dit que subhanallah, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le dîn. Mais quel plus grand cadeau, quel plus grand honneur qu'Allah peut accorder à un croyant que de l'accepter pour consacrer sa vie au khidmat du din, au service de la religion. en enseignant la religion, ou alors même en apprenant, si nous sommes dans une situation où nous apprenons la religion, c'est-à-dire tu consacres ta vie, que les années de ta vie passent, tu as 20 ans, 25, 30, ensuite 50, 60, et toute ta vie, tu es dans une construction spirituelle permanente, un cheminement spirituel vers Allah, où chaque jour, tu essaies de t'améliorer. Chaque jour, tu recherches les asbab, les moyens, les intermédiaires pour obtenir le contentement d'Allah. Chaque jour, tu examines tes péchés au quotidien et tu essaies de les éradiquer, de les éliminer les uns après les autres. Tu essaies de trouver de l'aide auprès de savants, auprès de personnes qui ont la connaissance pour t'aider à avancer dans la religion. Et maintenant, si, mashallah, un jour tu fais une rétrospective de ta vie et que tu te rends compte que tu es dans ce cheminement spirituel, tu avances et que tu as déjà 50 ans, 60 ans, qu'il te reste peu de temps à vivre et que toute ta vie tu as consacré pour ça, pour parfaire ta foi, pour obtenir l'agrément divin, mais c'est tout simplement magnifique. Même si on n'a pas accompli des choses exceptionnelles, on n'a pas fait Hajj tous les ans, ou on n'a pas été Ramadan à Mecca tous les ans, on n'a pas fait un Khatm al-Qur'an tous les trois jours comme Imam al-Shafi'i, et ainsi de suite. Même si on n'a pas fait des choses extraordinaires, mais on a ce cœur qui est vivant, ce cœur qui pense à Allah et qui recherche l'agrément divin. Et vous savez, tout ça, ça se voit au moment de mourir. Au moment de mourir, Allah peut t'accorder une certaine tranquillité, une quiétude qu'on ne peut pas imaginer. Et d'autres personnes vivent ce moment avec effroi, avec une peur, une crainte, une déchirure. Le fait de quitter sa femme, ses enfants, ses biens. Et c'est surtout la peur d'aller vers l'inconnu. Ça, c'est la peur concrète que nous pouvons concevoir. Mais au-delà de ça, il y a la vision, ce que tu vois au moment de mourir, en se croyant qu'il voit l'ange de la mort qui se présente à lui sous une forme magnifique avec beaucoup de nour et qui est suffisant pour être une récompense pour lui de ce dunya, et l'autre qui a vécu dans le péché ou dans le kufr ou dans le shirk, qu'Allah nous protège, et qui voit quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, que l'être humain ne peut même pas imaginer, husn al-khatima d'un côté et sous al-khatima. Ce que nous allons voir ce soir, c'est un hadith dans lequel notre prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que certains croyants vont quitter ce monde alors qu'ils ont encore dans leur livret de compte des péchés. Certains croyants vont quitter ce monde alors qu'ils ont encore dans leur livret de compte certains péchés. Et ça, c'est vraiment problématique. Ça, il faut vraiment ne pas être ce mu'min à qui on va donner le bain mortuaire et qui a encore des péchés dans son livret de compte. Mais normalement, c'est une situation qui n'est pas plausible, qui n'est pas imaginable, tellement la rahmat d'Allah, elle est grande. Tellement notre Seigneur nous accorde des asbab, des moyens, des actions simples au quotidien qui nous permettent de voir nos péchés totalement effacés. Il y a tellement de façons d'obtenir l'agrément divin, d'obtenir son pardon, qu'il est presque inconcevable qu'une personne quitte ce monde avec des péchés encore dans son livret de compte, à moins que ce soit une personne qui accomplit les péchés délibérément, ouvertement, sans la moindre crainte d'Allah, Azza wa Jal, parce que Allah pardonne à toutes les personnes, à l'exception de ceux qui accomplissent ces péchés ouvertement, où il n'y a même plus de taqwa, il n'y a même plus de crainte, de haya, de pudeur par rapport à Allah, face à Allah, et on expose la désobéissance, qu'Allah nous protège. Mais donc, normalement, un croyant qui fait ses ablutions, qui fait ses prières, qui lit, on parlait de adhkar, il faut le faire, ça, il ne faut pas lâcher, subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar, et compléter 100 par la ilaha illallah, wahdahu la sharika, la lahul mulk, wa lahul alhamdulillah, ala kulli shay'in qadir, ça nous lave de nos péchés, ça, on ne peut pas laisser passer. Tout comme on parlait l'autre fois du jeûne de Ashura, qu'on ne peut pas, c'est tellement important qu'on se frotte les mains quand il y a Ashura qui arrive, quand il y a 6 Shawwal et ainsi de suite, parce qu'on sait, et quand il y a la décade de Dhul-Hijjah, parce qu'on sait qu'est-ce qu'Allah nous accorde le pardon d'un an de péché, ou dans l'autre hadith pour l'autre vertu, 2 années de péché effacées, tout ça, il faut le faire. Et les adhkar, on le fait, subhanallah. Donc, il y a tellement de moyens de trouver l'expiation de nos fautes qu'une personne qui quitte ce monde avec des péchés encore, c'est compliqué. Maintenant, vous savez, parenthèse, hein, les pires des péchés qui vont nous accompagner, les pires des péchés qui risquent de nous accompagner et pour lesquels il n'y a pas de taouba possible. Je ne parle pas du shirk, Allah nous protège, je parle du mal qu'on fait aux gens. بهتان نميمة غيبة قيل وقال سمي لا زيزاني insulter une personne humilier quelqu'un avoir fait du tort causer du tort ou faire du mal à une personne voler le terrain l'héritage d'une personne ainsi de suite ça peut se passer entre amis ça peut se passer entre familles entre frères et soeurs ainsi de suite la pire des choses ce serait de quitter ce monde alors qu'on a fait du tort aux gens parce que là ce n'est plus Allah qui nous pardonne ben, parce que le premier pas du pardon pour le tort qu'on a fait aux autres c'est, ça se trouve auprès de ces personnes et si je meurs et que je n'ai pas demandé pardon à mon frère, ma soeur, mon oncle, mon neveu, ma nièce, what, ou un ami ou un voisin, c'est trop tard. C'est tout simplement trop tard et il faudra attendre les délibérés de l'au-delà où intervient le fameux hadith al-muflis qu'on connaît et que les bonnes actions du croyant, de l'oppresseur sont données, accordées à l'opprimé et c'est vraiment une situation catastrophique parce qu'on se retrouve dépouillé de nos bonnes œuvres. Donc, quitter ce monde avec des péchés, c'est grave. Mais quitter ce monde avec du tort qu'on a causé aux gens, avec le mal qu'on a fait aux gens, c'est la pire des choses. D'accord? Là, on parle des péchés, on va dire, de notre relation avec notre Seigneur. Certaines personnes n'ont pas pu demander tawbah pour l'ensemble de leurs péchés. Il leur reste quelque chose. Et le prophète, alayhi salat wa sallam, dit que pour ces personnes-là, فَيُشَدَّدُ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ Cette personne vit des situations très difficiles au moment de mourir, des épreuves au moment de l'agonie, au moment où l'âme va quitter le corps, et لِيُكَفِّرَ بِهَا عَنْهُ Et par cette douleur, cette difficulté, parce que la mort c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, et la séparation de l'âme, du corps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, et que nous le verrons, nous le ressentons, nous allons un jour le vivre et le sentir très clairement, car même Ashraful Makhlouqat, notre prophète Mohammed alayhi salat wa salam, a souffert au moment de mourir. Et Allah seul sait comment est-ce que l'ange Jibril alayhi salam a pris soin de ne pas causer du tort à notre prophète alayhi salat wa salam, mais ça fait partie de la sunnah d'Allah azza wa jal que de ressentir cette douleur au moment de quitter ce monde. Et le prophète salam a ressenti et il a dit aux sahaba qui étaient autour de lui qu'il jure que inna lil mawti sakarat, que cette mort est accompagnée d'une agonie qui est difficile. Donc au moment de mourir, lorsque le croyant ressent une douleur ou le croyant est en souffrance, aux yeux de la famille, hein, d'un regard extérieur, les proches qui regardent, ils sont attristés de voir la personne en train de gémir, de je sais pas, de sursauter ou autre chose. Mais pour le croyant, c'est bichar. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, parce que par ses péchés, subhanallah, il se peut que certains péchés qui restaient dans son livret de compte sont en train d'être pardonnés par Allah Azza wa Jal. Alors que wa inna al-kafira la ya'malu al-hasana. La suite du hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous dit que la personne qui n'a pas la foi, qui n'a pas iman, il se peut que durant sa vie, la personne a accompli beaucoup de bonnes choses, qu'on ne va pas appeler amalun salih, mais de bonnes œuvres. La personne a été généreuse, a donné à manger aux gens, a été correcte, c'est quelqu'un qui respectait ses engagements, qui faisait du bien autour de lui, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur. Fa yusahhalu alayhi inda al-mawti liyujziya biha. Le prophète dit que cette personne, il se peut, d'accord ? Ce n'est pas une règle générale. Tout ce qui est en rapport avec l'au-delà n'a pas une règle fixe qui nous est accessible, qui nous permet de classifier les choses. Ça se passe comme ça. Non, c'est au bon vouloir de notre Seigneur. Et Allah seul sait comment se passent ces étapes. Donc, certaines personnes qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mais qui ont accompli beaucoup de bonnes œuvres durant leur vécu, donc de ce dunya, durant leur vivant, ces personnes-là trouvent une mort qui est plus ou moins agréable, entre guillemets, et facile, parce que c'est de cette façon qu'Allah Rabbul Izzah les rétribue de leurs bonnes actions de ce dunya. Hada. Donc, on comprend deux choses. Il y a deux enseignements essentiels à tirer de ce hadith. Premièrement, la souffrance au moment de mourir, c'est quelque chose de réel. C'est une fatalité. Mais ce n'est pas là quelque chose, entre guillemets, de dramatique pour le croyant parce que ce sont des souffrances qui lui permettent de voir certains péchés encore présents effacés par Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, si une personne est dans le kufr ou le shirk, mais que la personne a un mode de vie qui est, mashallah, exemplaire et en termes de bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal peut prendre la décision de le rétribuer dans ce dunya pour ses bonnes actions. Mais bien sûr, le jour de Qiyamah, aucune bonne action qui n'est pas accompagnée de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ne peut se retrouver dans la balance d'une personne le jour des comptes et lui apporter une quelconque récompense. D'où le verset « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Je vous laisse rechercher le verset et rechercher sa traduction et rechercher le tafsir dans Ibn Kathir et As-Sa'di rahimahullah hadha. Maintenant, avant de passer au point suivant, une question peut se poser. Il y a des personnes qui n'ont pas la foi, certes, mais qui sont vraiment dignes de confiance et qui ont beaucoup plus de qualité que certains croyants qui, eux, ils ont l'apparence de la foi, l'habillement même parfois du croyant. Enfin, parce qu'est-ce qu'il y a un habit pour le croyant, hein, ça c'est une autre question. Il y a l'habit, le vêtement rempli de pudeur, ça c'est très clair, tant pour l'homme que pour la femme. Bref, on peut avoir quelqu'un qui a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais qui est vraiment, Allah musta'an, un pécheur endurci, avec des défauts, une façon de se comporter avec les gens qui est profondément détestable. Et de l'autre côté, quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui a peut-être d'autres croyances, ou qui est athée, hein, tout simplement, et malheureusement pour lui, et que la personne a donné sa vie pour, je ne sais pas, des associations d'œuvres caritatives ou la fin de le monde, Médecins sans frontières, ainsi de suite. Qu'en est-il? Est-ce qu'on va considérer que tout ce qu'ils ont fait n'ont servi strictement rien? Y a-t-il une logique, une cohérence dedans? Celui qui est né dans telle famille musulmane et tout, elle ne l'a pas choisi, c'est qu'elle est née au bon endroit, au bon moment, et qu'il ne prend pas considération de sa foi, et au contraire, il fait plein de choses. Et est-ce qu'il aura un rang supérieur à celui qui n'avait pas la foi, mais qui a fait des choses exceptionnelles, et ainsi de suite? Imaginez celui qui construit des hôpitaux dans les pays pauvres, des puits, ainsi de suite, sans présence de iman. Bref, je pense que cette question est passée par la tête de beaucoup de personnes et beaucoup de gens se sont à un moment donné posé cette question et ça a dû animer certains débats pendant les repas, les dîners, les échanges. La réponse à cette question se trouve dans la sira. Le prophète alayhi salat wa salam avait été questionné à Mecca ou alors à Médina, mais c'est un événement qui en rapport avec la période makkiya. Il avait été interrogé par les sahaba concernant une personne, son nom m'échappe, une personne qui a vécu pendant la période de l'ignorance, Jahiliya, et c'était un arabe, hein, de quelqu'un de Mecca, et c'était une personne qui était connue dans toute la région pour être un des hommes qui étaient les plus engagés dans la recherche du bien-être, hein, de son prochain. C'est quelqu'un qui donnait à manger aux pauvres, qui accueillait les voyageurs, qui avait toutes les qualités qu'on pouvait imaginer et qu'on doit normalement retrouver chez le mu'min. Et les sahabas ont posé cette question au prophète d'Allah, qu'en est-il de cette personne qui avait fait telle chose, telle chose, telle chose? Le prophète alayhi salat wa salam a reconnu tout ce que cet homme avait fait, mais al-Nabi alayhi salat wa salam dit que malheureusement, il n'a pas adoré Allah azza wa jal, ou alors il n'a pas dit une seule fois la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce qui fait que les bonnes actions de cette personne, dans ce dunya, Allah seul sait comment est-ce qu'il peut le rétribuer, le récompenser, l'apaiser, ou guider encore plus ses pas. Mais dans l'au-delà, le prophète alayhi salat wa salam a attesté que ses bonnes actions ne l'accompagneront pas dans l'au-delà. Et c'est là la sunnah d'Allah azza wa jal. C'est de cette façon qu'Allah a organisé ce dunya. Maintenant, comment est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous voyons une cohérence, une justice ou ça ne relève pas de nos compétences il ne nous a pas été demandé de réfléchir sur l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Et ça rejoint le hadith qu'on a vu la dernière fois concernant les fitnas à la fin des temps. Le prophète m'a dit « Addu ma'alaykum, toi, ô croyant, fais ce que tu dois faire. Accomplis tes bonnes actions, occupe-toi de ta foi. » Et ce qui se passe autour, les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, sache que c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce qui va en advenir d'un tel ou d'un tel, dis-toi bien que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, qui reprend son âme de cette circonstance, et c'est Allah qui en est responsable. Moi, il y a deux choses, deux réactions. Premièrement, Ushkurullah. Remercie Allah qui t'a donné la ilaha illallah, Muhammad Rasul. Ce qui fait que même si toi tu n'as pas construit des hôpitaux, des puits ou des écoles dans tel pays, contrairement à un tel, fulan ou fulan, mais toi il suffit que tu dises Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. J'allais dire juste Subhanallah, mais en fait, je voulais trois arbres en plus au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Sachant que celui qui dit Subhanallah a un arbre au paradis. Je me suis dit que pourquoi s'en priver, hein, qu'Allah nous tawfiq de le faire avec conviction, yaqin et ihtisab ou l'ajr, espoir de rétribution. Alors moi, si je n'arrive pas à la cheville d'un tel millionnaire, milliardaire de tel pays qui a fait telle chose et telle chose, ben moi au moins, Subhanallah, par la grâce d'Allah, et c'est uniquement fadlun wa karamun min Allah, par c'est le fait qu'Allah m'honore et qu'Allah m'accorde ce bienfait, qu'Allah m'a honoré. Allah Rabbul Izzah nous accorde quelque chose d'immense. C'est le fait d'avoir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le simple fait de dire Subhanallah, Allah t'accorde un arbre de le Jannah. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour qu'on comprenne d'une façon générale que chacune de nos bonnes œuvres compte, est comptabilisée, est inscrite dans le livret des bonnes œuvres. Il nous sera présenté le jour de Qiyama et pèsera de sa balance. Celui qui n'a pas la ilaha illallah, ben ses bonnes œuvres ne lui apporteront rien dans l'au-delà. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que dans ce monde on dénigre ces gens. Non, aucunement. On garde un raisonnement qui est tout à fait cohérent. On a de l'estime et de l'admiration pour ces personnes-là, mais nous devons souhaiter et faire doua qu'Allah leur accorde la guidée et la hidayah. D'accord? Maintenant, nous concernons, réalisons que c'est un ni'ma d'avoir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et maintenant, je me dois de me dépasser en bonnes actions, en bonnes œuvres, pour essayer d'être un peu, pour mériter d'une certaine façon, ce ni'ma qu'Allah m'a accordé. Hada. Ça, c'est donc un premier point. On a déjà terminé les 25 minutes. Mais si vous me permettez, encore un hadith. Et puis, s'il y a des questions, éventuellement. Non, ce n'est pas un hadith. C'est une citation de Ibn Abi Dunya. Dans lequel Cheikh explique que « Iza baqiya ala al-mu'mini min dhunubihi shay » ça va dans le même sens. C'est une des spécificités de cet ouvrage, hein, les versets, les hadiths et les citations des savants donc sont regroupés par thème. Il dit que s'il reste des péchés justement dans le livret d'action du croyant, il trouvera des difficultés au moment de mourir afin d'atteindre le degré qu'il doit avoir dans le Jannah. Bon, finalement, on va se passer de cette citation parce que ça reprend, on va dire mot pour mot, le hadith. Hadith de Aïcha radiallahu anha, hadith rapporté par Ibn Majah, قال عليه الصلاة والسلام, ah c'est magnifique ça, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ, le croyant dans ce dunya est rétribué pour toute chose. Il est rétribué pour toute chose. Même pour la difficulté que le mu'min va ressentir au moment de mourir. Et c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Maintenant, ce qui nous intéresse, puisque la deuxième partie, qui est le sujet du jour, mais on l'a plus ou moins détaillé autant que possible, bidnillah. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie du hadith, que le croyant est rétribué de différentes façons. C'est-à-dire qu'Allah t'accorde des récompenses quand tu fais le tawaf, quand tu lis le Coran, quand tu viens en aide aux pauvres, aux orphelins, et ainsi de suite. On fait de bonnes actions réelles, concrètes et palpables, hein, qu'on a fait volontairement, subhanallah. Mais il faut savoir que Au-delà des bonnes actions, Allah Azza wa Jal peut également t'accorder des récompenses par d'autres situations de la vie, et ce sont les épreuves. Thématique qu'on avait bien développée il y a 3 semaines. Mais, ikhwan et khawati fillah, des fois, une personne a mal, très mal à la tête. Et on avait parlé de ça il y a 2 semaines ou 3, une migraine, ou alors cette épine qui pique. Le croyant, hein, d'accord, sa main, son pouce, ses pieds, il marque quelque chose qui le blesse, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des asbab, des intermédiaires par lesquels Allah Azza wa Jal va pardonner ses péchés et lui accorder des récompenses. Mais au-delà de ça, il y a également la tristesse, la mélancolie envahissante. Des fois, on est dans une situation où on est déprimé, d'accord. Bon, bien sûr, il faut rechercher l'origine. Pour résoudre le problème, je ne remets pas ça en question. Mais si je ne me trompe pas, c'est un hadith d'Abu Bakr al-Siddiq à vérifier si c'est bien lui ou un autre sahaba. Mais le hadith est authentique, où ils avaient demandé au prophète sallam, qu'en est-il de al-ham, de la tristesse qui envahit le cœur. Le prophète alayhi salat wa sallam a identifié cette tristesse profonde comme étant un palier également des épreuves qu'Allah azza wa jal envoie dans ce dunya. Ça nous permet de comprendre que ikhwan ya khawati fillah, toute situation de la vie, bonne comme mauvaise, ce sont des futuhat min Allah. Ce sont des situations qu'Allah crée pour nous dans notre intérêt. Quand il s'agit de quelque chose de positif, ben c'est un ni'ma, c'est un bienfait et ça nous procure de la joie. Et quand c'est quelque chose de difficile, hasan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa hasan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Quand c'est quelque chose de difficile et une épreuve, une maladie ou une mauvaise nouvelle ou autre chose, on n'aime pas, mais qu'on réalise qu'il y a khayr, il y a un bien dans cette situation parce qu'Allah nous l'a prédestiné. Que ce soit une situation difficile ou même les premiers paliers de l'épreuve qu'on vient de citer, tout ça nous permet de comprendre que Allahu latifun bi'ibadih, qu'Allah est réellement et vraiment bienveillant envers nous, que toute situation qu'Allah crée pour le croyant, il y a un bien pour nous à partir du moment où nous arrivons à comprendre et intégrer le fait que c'est là une situation qui a été créée par Allah et que nous orientons nos cœurs vers Allah. De quelle façon, dans les deux circonstances, ça rejoint le hadith que le prophète a dit que ajabun, exceptionnelle la situation du croyant et cela est propre au croyant et donc à personne d'autre. Lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, shakara fa kana khayra lahu, il remercie Allah. Donc le cœur s'oriente vers Allah parce que ash-shukru min a'malil qulub. Le fait de remercier Allah, la reconnaissance est une action intérieure. Quand tu remercies Allah au plus profond de ton cœur, il y a un bien pour toi. Et lorsque le croyant est éprouvé et qu'il fait preuve de sabr, fa sabara fa kana khayra lahu, il fait preuve de patience et c'est un bien pour lui. La patience est également dans le cœur, ça commence par une conviction intérieure. Ben, même dans cette situation, Allah Rabbul Izza va l'honorer. Celui qui remercie Allah, il est rétribué parce qu'il a remercié Allah. C'est comme une histoire magnifique sans fin. Ça ne se termine pas parce que c'est Allah qui crée qui a organisé les choses de cette façon, subhanallah. Et dans les situations d'épreuve, le croyant oriente son cœur vers Allah et il trouve l'apaisement et il trouve une rétribution, une récompense qui vient d'Allah. C'est notre Seigneur qui est vraiment bienveillant envers nous, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles et que sa réalité pénètre nos cœurs et qu'Allah guide nos pas jour après jour. Pour ceux qui ont 20, 25, 30, 40, qu'Allah nous permette d'année en année de nous rapprocher de lui et que au fur et à mesure qu'on gagne en maturité, ben, qu'on gagne en sagesse également. Yu'til hikmat man yasha, et que cette sagesse nous permet de relativiser et qu'Allah enlève hubbud dunya, hein, qu'Allah enlève hubbud dunya de notre cœur et met hubbul akhirah, la recherche de son contentement, de son agrément, et que ça devienne vraiment le but de notre vie. Ma tawfiq illa billah, je vous remercie de votre attention. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.